Ça se reconnaît, un écologiste.
Avec tous ces oiseaux à la con, ils sont 50.
CO2.
Ça a des lunettes, ça a une barre, ça a un cahoué.
En amour.
Tu préfères les bagnoles ?
Peut-être.
Denis Chessou.
J'ai une recette du pays.
Sans produits chimiques, il n'y a jamais de contre-indication.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce magazine de nature et d'environnement, CO2 mon amour, l'émission qui prend le temps de ne pas aller vite, avec aujourd'hui Éric Morin et Michel Béziquian la technique, et assisté de Marion Lelay, de Jean-Christophe Pinaza, de Valérie Ayestara et aussi, mais c'est Caroline Lebossé qui réalise l'émission. Allez, une petite humeur. La nature, comme dirait l'autre, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Et cette semaine, oubliez la Hongrie faiseuse d'empereurs autrichiens et de présidents français. Oubliez Bartok et Vasarely, le stylo à billes et la vitamine C qui sont nés là-bas. Le lac Balaton, son parc national, ses roselières qui offrent le gîte et le couvert aux hérons et cormorans. Parce que depuis lundi, la Hongrie, on le sait, est entrée à la rubrique des catastrophes écologiques. C'est pas la vie en rose, mais c'est la vie en rouge. Et le beau Danube pleure cette catastrophe avec ses yeux plus tout à fait bleus. Des villages transformés en cimetières. Alors n'allez pas me dire c'est la faute à pas de chance. Non, on a joué le risque d'un réservoir trop rempli face à la sécurité du milieu et la vie des habitants. Donc la chance n'a rien à voir dans cette vieille rengaine de la course au profit, de la réduction des coûts et tant pis pour la sécurité. Tenez, on va faire un petit salto là, arrière dans le temps. Nous sommes en 1894 à Gardanne, près de Marseille donc, et le chimiste autrichien Karl Joseph Bayer inaugure la première usine d'extraction d'alumine. Usine qui fonctionne aujourd'hui et continue de rejeter ses bouts toxiques en Méditerranée dans la fosse de Cassidègne, près de Cassis. Bon, c'est tout à fait inoffensif, nous dit-on chez Rio Tinto, l'exploitant de l'usine, mais on va quand même vérifier, répond justement Chantal Joanneau, c'est légalement autorisé cette affaire. Depuis qu'on se demandait si emballer les sandwichs dans du papier alu, bah, ça risquait de nous filer ou non un petit bout d'Alzheimer, on avait fini par oublier que la fabrication de l'alu, c'est pas non plus nickel, oui. Outre de vous mettre à genoux quelques tranches de centrales nucléaires, la production d'aluminium vaut 3 fois son pesant de déchets toxiques, ces fameuses boues rouges, un décapant du genre à vous déboucher un lavabo en 20 secondes chrono. Alors vous multipliez par le demi-million de mètres cubes qui s'est déversé dans les campagnes de Hongrie, et vous n'obtenez plus aucune trace de poissons, de végétation dans les sols et dans les cours d'eau de la région. Alors reste à savoir comment ce grand Danube, comment la nature digéreront la marée rouge, l'équivalent de 30 fois la cargaison de l'Erika. L'Erika quoi ? Bah ne me dites pas que vous avez déjà oublié cette affaire-là. La nature, comme la culture, vous disais-je, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Un homme qu'on ne voudrait pas oublier, un formidable écrivain qui nous a quitté cette semaine, eh bien c'est Bernard Clavel, et on va lui rendre hommage en ce début d'émission.
Moi, je n'ai jamais trappé moi-même, parce que je n'ai pas l'âme d'un chasseur, je sais pas, mais je suis allé souvent à la trappe avec des trappeurs professionnels, enfin des gens qui ne font que ça. Et j'ai un très bon ami qui est trappeur près d'Amos et qui m'a très souvent emmené en forêt avec lui et qui, lui, alors, est un passionné d'animaux. Ça peut paraître extraordinaire, mais ce type-là a toujours chez lui, j'ai d'ailleurs des photos extraordinaires, il avait des ours apprivoisés. Il avait la plus belle bête que j'ai vue chez lui. C'était un harfang des neiges.
Clavel, d'ailleurs, avait écrit un ouvrage, c'est pas le plus connu, mais qui s'appelait Cargo pour l'enfer. C'était un livre sur le trafic des déchets toxiques. Deuxième volet de ce magazine. On va aller où ça ? Au bord des routes. Oui, parce que le salon de l'auto, on a bien compris, c'est en ce moment. Mais le salon de la route, c'est toute l'année.
Vous savez, les bords de route, ça devient maintenant les seuls espaces qui ne sont pas utilisés, cultivés, oui. Etc. Donc on a des abeilles, etc. Bon, alors dans ces conditions, avec l'association Gentiana et l'association de botanique, on a repéré les talus qui étaient intéressants en termes de botanique sur l'ensemble du département. Et on fait des opérations où on limite le fauchage, voire même on le retarde pour que les fleurs puissent faire leur cycle complet.
Pas de fatalité, nous sommes dans le département de l'Isère. Jean-François Noblet, technicien environnement, et on essaye de rendre, entre guillemets, la route plus écologique. Si, il y a des manières de faire qui sont différentes, ça va nous faire le plus grand bien. Troisième volet, ce sera l'actualité de l'environnement avec Nathalie Fontrelle. Et puis quatrième volet, ce sera l'agenda de CO2, mon amour. On parlera entre autres de la semaine européenne des requins. Vous aimez la musique ? Bah oui, ça tombe bien. Muriel Pérez a choisi ce premier disque aussi, c'est La Maison Tellier.
Je dois prendre un train, il s'agit de quitter les hommes pour m'en aller avec les chiens au hasard que la vie me donne. la vie me donne. On l'aurait découpé en tranches que chaque tranche aurait voulu fuir. Pluton cloué entre des planches qu'il aurait quand même su partir. Il aurait su partir. Il avait déserté sans doute une armée de frères en déroute. Ici pas d'arbre pour le pendre et plus d'eau pour le noyer. Là-bas même si j'ai la pierre fendre, le sang peut circuler. Le sang peut circuler. La femme à qui il a menti, une main levée au ciel, clamait que sous son manteau gris elle avait cru voir comme des ailes. J'aime quand la lune est un poignard aiguisé. Elle transperce les pierres une à une jusqu'à les faire saigner. Jusqu'à les faire saigner. Ils ont renoncé.
Bien ça. Donc la maison Tellier, c'était l'art de la fugue. Je ne sais pas si Clavel fuguait, mais en tout cas, il bougeait beaucoup, il aimait cela. On va retrouver d'abord sa voix, nous parlant du fleuve, le Rhône.
Quand, c'est comme les fleuves, hein, ça, quand moi j'ai le Rhône qui me coule dans le sang, je sais que je ne m'en débarrasserai jamais. Enfin, le Rhône et d'autres rivières, d'autres fleuves. Et le Nord, c'est la même chose. C'est aussi tenace qu'un fleuve, c'est aussi envahissant. C'est quelque chose qui vous empoigne pour des raisons qu'on a du mal à définir, parce que c'est quand même pas... bon, la beauté d'un fleuve, tout ça, on peut en discuter. Là, c'est une grande beauté aussi, mais c'est une beauté tellement dure parfois. Vous avez parlé de moins 30 tout à l'heure. Moi, j'ai eu moins 65 quand j'étais dans le Nord. Donc, vous voyez que c'est pas de tout repos. Mais il y a d'abord dans la nature quelque chose d'extrêmement voûtant, et dans les hommes qui vivent dans cette nature, parmi eux j'ai découvert des êtres extraordinaires.
Alors pour avoir eu la chance de connaître un peu Clavel, cet homme-là était extrêmement heureux quand on parlait de lui comme un artisan. C'était un homme qui était, on va dire très simplement, à la confluence de Giono, de Guénaud, de Marcel Aimé, de Camus. Et donc un artisan des lettres, un menuisier qui rabotait sans cesse ses phrases et qui fuyait les honneurs. C'est un chêne qui s'abat dans un fracas énorme, écrit avec justesse Pierre Vavasseur cette semaine dans Le Parisien. Alors j'avais envie de vous faire retrouver la voix de ce conteur formidable qui a raconté les paysans, les ouvriers, les mariniers, la condition humaine. Clavel a toujours eu une écriture sociale qui cogne, qui rudoie, qui empoigne le réel, avec une écriture qui monte au front, qui tape sur l'injustice, et puis aussi qui s'est nourrie véritablement de la nature. Clavel, c'est aussi le raconteur du froid, ce froid qui, bah vous le savez, aime s'enrouler dans son Jura natal. Et il doit évidemment beaucoup de choses au Rhône, à la Franche-Comté, mais aussi une grande partie de son écriture va dans les grands espaces. Alors on se souvient de la saga du Royaume Royaume du Nord. Et là, on va le repartir avec lui au Canada, non loin des Grands Lacs, au-delà de la baie de James, rencontrer une famille d'Indiens Cree qu'il a lui-même donc rencontré. Et dans ce Grand Nord québécois, donc avec ses trappeurs, on a une époque qui est tout à fait contemporaine parce que les enfants se retrouvent face à la télévision sur un scooter des neiges. Mais on sent bien que les parents refusent en partie cette civilisation qui casse leurs rapports sociaux.
Il y en a, et je pense que c'est la majorité encore parmi les anciens, qui ont la taïga tellement dans la peau que vivre assis dans une maison carrée à se chauffer au coin d'un radiateur électrique en regardant une télévision, pour eux, c'est la mort, quoi. Alors, il arrive toujours un moment, ils le font un petit peu, comme ça. Puis arrive un moment où l'appel de la forêt, si j'ose dire, j'ose employer ce titre, est plus fort que tout le reste. Et ils partent trapper. Et ils essaient de retrouver la vie qu'ils avaient avant.
Et puis Bernard Clavel, l'attelage et l'orgueil des Indiens.
Ah, c'était, oui, pour eux, moi j'ai connu des vieux Indiens, enfin vieux, ils avaient 50 ans à ce moment-là, qui parlaient de leur attelage de chien, vraiment comme d'une femme dont ils auraient été amoureux. Mmh. Enfin, c'était... Et on peut comprendre ça, on peut difficilement comprendre que quelqu'un parle comme ça d'une voiture ou d'une moto, mais que quelqu'un parle comme ça d'un attelage. Parce qu'un attelage, c'est vivant, pas seulement parce que ça bouge au moment où on le mène et où ça réagit autrement qu'un moteur, mais c'est vivant aussi parce que ça n'est pas toujours le même.
Oui.
Il y a toujours un chien qui meurt, il faut le remplacer, tout ça. Et chacun, il se souvenait, oh, dis donc, quand j'avais ce chien-là, comme chien de tête, c'était extraordinaire. Tu sais, il me parlait de ça, vraiment.
La grande fierté, c'est lorsqu'il y a un croisement entre une femelle malamute et puis un loup. Parfois, on lâche la femelle.
Oui, ça, c'est enfin... Moi, j'ai connu un vieux trappeur qui n'était pas indien, d'ailleurs, qui avait un très bel attelage et dans lequel il m'a affirmé, je veux bien le croire parce qu'ils en avaient bien l'allure, qu'il y avait deux chiens qui venaient de croisements comme ça. Et c'était soit des malamutes, soit des huskies, une femelle qui était en chaleur. Il la lâchait dans la forêt et il savait qu'elle avait une chance de revenir couverte par un loup. Ça fait évidemment des chiens qui sont très beaux, mais qui, quelquefois, risquent d'être un petit peu féroces.
Et puis, il y a d'autres animaux. Alors ça, on va sûrement en parler tout de suite. Évidemment, il y a l'ours qui est le frère de l'Indien, qui est un peu le grand-père,
de ces
Indiens.
C'est le grand-père, oui.
Et que l'on respecte. C'est-à-dire que lorsque l'on tue l'ours, eh bien, on le respecte, on le remercie de donner sa viande.
Voilà, c'est ça. Il y a tout un rite autour de la chasse à l'ours qui est quelque chose de sacré. On tuera pas, on va pas aller comme ça dans la taïga, on voit un ours, paf, on le tue et puis on le dépouille, on s'en va sans rien dire. C'est pas vrai, ça. Il y a tout un rite à respecter. Et je ne suis pas l'ami des chasseurs, mais quand ce sont des gens comme les Indiens qui chassent pour survivre, qui chassent parce qu'ils en ont besoin pour vivre,
qui prélèvent ce qu'il faut,
c'est autre chose, c'est leur métier. Et ils ne tueront jamais, jamais une bête s'ils n'en ont pas besoin.
Oui. Et alors il y a cet animal qui porte le titre de ce roman, le carcajou, oui, que je ne connaissais pas, qui fait partie...
Si, vous le connaissez, mais il ne s'appelle pas comme ça en Europe, quoi. C'est le glouton.
Ah, c'est le glouton.
C'est le glouton.
D'accord.
Oui, oui.
Donc ça
mais je crois qu'il n'y en a plus en Europe, enfin, ou s'il y en a peut-être dans les pays nordiques, je ne sais pas, mais en tout cas, on n'en voit pas, quoi. Et je connais des trappeurs de 80 ans qui n'en ont jamais vu vivant, mais qui ont eu affaire à lui, parce que c'est un animal tellement rusé, tellement vorace et tellement féroce, qu'il ne se déplace généralement que la nuit, s'il y a un risque. Et il ne se déplace que pour trouver sa nourriture. Seulement, les trappeurs en ont une peur bleue, parce que s'ils ont tendu des lignes de trappe, vous savez que les pièges sont tendus en ligne comme ça, et ils peuvent tendre 15, 20, 30 pièges comme ça. Alors on met une amorce au piège, bien sûr. Lui réussit à toujours prendre les amorces. Il peut vider toute la ligne de trappe.
Il ne se fera pas prendre.
Il ne se fera jamais prendre. Il y a des pièges qu'on retrouve fermés, Ouais. Mais il ne s'est pas fait prendre. Comment fait-il ? Personne ne le sait, parce qu'on n'a jamais pu le filmer en train de faire ça. Mmh. Et quand il détruit quelque chose, par exemple une réserve de nourriture, parce qu'il s'attaque aux réserves de nourriture aussi, s'il ne peut pas tout emporter ou tout manger, il l'imprègne de son odeur horrible, mmh. parce qu'il paraît que ça...
C'est pire que le putois,
oui. Ah oui, il paraît que c'est épouvantable. Et on ne peut plus rien prendre. Et j'ai connu un trappeur dont la tente a été ravagée par un carcajou. Et il m'a dit, j'ai eu une chance inouïe parce que j'étais parti avec mon canot pêché.
Donc il lui restait le canot.
Sinon, il m'aurait détruit mon canot aussi. D'accord. C'est fou.
D'ailleurs, vous le dites, c'est le diable. En fait,
ah, c'est le diable. Pour les Indiens, c'est le diable, oui. Dès qu'on leur parle du carcajou. D'ailleurs, ils évitent de prononcer le mot.
Bernard Clavel, qui vous a enseigné en fait la trappe ? Vous avez suivi qui pour bien connaître comme ça ? Là, au départ, il y a un boulot de journaliste et puis après, il y a le travail du romancier. Mais vous avez suivi tous ces hommes ?
Non, moi, je n'ai jamais trappé moi-même parce que je n'ai pas l'âme d'un chasseur, je ne sais pas. Mais je suis allé souvent à la trappe avec des trappeurs professionnels, enfin des gens qui ne font que ça. Et j'ai un très bon ami qui est trappeur près d'Amos et qui m'a très souvent emmené en forêt avec lui. Et qui, lui, alors, est un passionné d'animaux. Ça peut paraître extraordinaire, mais ce type-là a toujours chez lui, j'ai d'ailleurs des photos extraordinaires, il avait à un moment donné un orignal apprivoisé chez lui, il avait des ours apprivoisés, il avait la plus belle bête que j'ai vue chez lui, c'était un harfang des neiges. Vous savez, le harfang des neiges, c'est le plus beau rapace qu'on puisse imaginer. Et il avait trouvé cet oiseau blessé, il l'a soigné, et je lui dis, mais qu'est-ce que tu vas en faire maintenant ? Ah, il m'a dit, mais tu vois, je vais attendre le printemps, et quand le dégel va commencer, je vais le lâcher. Il est bien soigné, maintenant bien nourri, tout, il est costaud, et il va partir vers le nord, parce que c'est le printemps qui vient, il ira vers le nord. Si je le lâchais maintenant, il irait vers le sud, il se ferait tuer.
Voilà donc quelques paroles de cet homme assez extraordinaire, écrivain populaire, faut le dire, et il n'y a rien de honteux, qui a quand même des valeurs extrêmement fortes, qui s'est nourri de la nature. J'essaierai au mois de décembre de vous retrouver au cours d'autres éléments. Dans quelques instants, eh bien, ça va être sur la route que nous allons aller, route et environnement, comment ça peut se combiner. Nous allons partir dans le département de l'Isère, ce sera juste après Yael Naïm. One, two, three, four. When you feel ashamed. We'll be right back.
you slide. When you feel you go insane, they let you die.
C'était Go to the River. Et ben nous, on va aller sur la route. C'est notre lieu aujourd'hui. Alors vous allez me dire, c'est pas très sexy comme reportage. Évidemment, c'est pas les myrtilles des monédières de la semaine dernière. Et pourtant, alors on n'est pas sur une route mythique des États-Unis ou bien la route de la soie. Non, non, on se calme. On est sur une départementale du département de l'Isère. Remarquez, c'est joli parce qu'on a quand même le massif de la Chartreuse sous les yeux. Ça, c'est pour le lieu. L'homme qui va nous parler, c'est Jean-François Noblet, qui est naturaliste, qui tient d'ailleurs aussi la rubrique hebdo dans Rustica, une rubrique hebdomadaire, et qui est technicien environnement au Conseil général de l'Isère. Alors, ce département, comme beaucoup d'autres, urbanisation rapide, l'asphalte a coulé un peu partout et on s'est dit quand même comment repenser ces plus de 5000 km de voies routières. On va essayer de ne plus réchauffer, polluer, penser en rond, sauf peut-être dans les ronds-points. Et vous allez me dire, bon, route écologique, c'est un peu un choc des mots, c'est peut-être un oxymore. C'est évidemment pas le mariage absolu, mais ces voies qui permettent aux hommes de circuler, de se relier, de commercer les uns avec les autres, peuvent se penser fort heureusement différemment aujourd'hui. Et donc Jean-François Noblet, conseiller technique environnemental, est issu du milieu associatif. C'est un homme qui est pragmatique, opiniâtre, qui a quelques idées à suggérer à ses élus. Alors, on est parti dans l'Isère, on the road again.
Comme ça, on est bien garé. Hop là.
Sept. Il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7. Que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. C'est une heure qui fait ressentir vos des vacances. Qui traverse la Bourgogne et la Provence. Qui fait Paris un petit faubourg de Valence. Et la banlieue tient Paul de Vence.
Voilà, donc bord de route et bord de talus.
Alors, on a donc réfléchi à tous les aspects en matière d'environnement, depuis la création de routes jusqu'à leur entretien. Alors, ça veut dire, par exemple, on s'est intéressé aux études d'impact pour les projets routiers. On essaye de trouver des alternatives crédibles qui évitent d'en faire trop. D'abord, la gestion des bas-côtés avec les pesticides. Alors, nous, depuis 2005, on a complètement arrêté l'usage des pesticides en bordure de voirie. On fait un entretien qui est limité en surface et qui est essentiellement mécanique. Ensuite, on s'est intéressé à la flore des bords de route, parce qu'il y a évidemment une flore tout à fait particulière, comme vous pouvez le voir ici. On a des orchidées, on a des coquelicots, on a toute une série de flores. Vous savez, les bords de route, ça devient maintenant les seuls espaces qui ne sont pas utilisés, cultivés, etc. Donc on a des abeilles, etc. Alors, dans ces conditions, avec l'association Gentiana et l'association de botanique, on a repéré les talus qui étaient intéressants en termes de botanique sur l'ensemble du département. Et on fait des opérations où on limite le fauchage, voire même on le retarde, pour que les fleurs puissent faire leur cycle complet. On a souvent des gens qui disent « Ouais, vous entretenez plus les bas-côtés, etc. » Si, on les entretient, mais de manière différente et pour la biodiversité. Alors, on fait aussi des tas de choses. Par exemple, on lutte contre les panneaux publicitaires en infraction.
Alors ça, j'allais vous en parler parce qu'on en a quand même un bon paquet. On en a une ribambelle, là.
Ouais, bah, c'est des milliers de panneaux qui sont en infraction. Par exemple, au bord de route, en hors agglomération, on n'a pas le droit La loi interdit les panneaux publicitaires, sauf les préenseignes, qui sont des petits panneaux qui sont utiles pour le voyageur, c'est-à-dire les hôtels, les restaurants, les stations-service, etc. Il est absolument interdit de mettre des panneaux, par exemple pour un coiffeur ou un boulanger. Alors, en plus, il faut que ça soit à moins de 5 km du lieu de l'implantation. Vous voyez le panneau McDonald's ici? Ah ben, c'est clair, eux, ils en ont... et on ne peut pas en avoir plus de 4 par installation. C'est-à-dire que le restaurant McDonald's de Voiron, il ne peut pas avoir plus de 4 panneaux à moins de 5 km. Il en a facile plus d'une dizaine et il y en a qui sont à 20 bornes sans problème. Quoi. Okay.
On ne le fait pas respecter, ça, ces histoires de panneaux, manifestement.
Bah, écoutez, nous, on essaye, en tout cas. Les associations, par exemple, l'association Le Pivert vient de faire condamner un publicitaire en infraction. 18 700 euros d'amende et de dommages d'intérêt, c'est pas mal.
Oui, mais ça veut dire que ça a été le boulot des associations. Mais sinon, il y a quand même quelques textes de loi quoi, qui existent.
Non, mais attendez. Vous n'êtes pas au courant qu'aujourd'hui, un fonctionnaire sur deux n'est pas remplacé? Il n'y a plus aucun fonctionnaire qui s'occupe de ça en Isère. Quand j'écris au préfet pour lui dire qu'il y a un panneau à tel endroit, bah, qu'est-ce qu'il veut qu'il peut rien faire. Il a personne pour mettre en face pour dire « occupez-vous de ce truc-là ».
J'ai suivi vos émissions. Je les ai trouvées bonnes, encore qu'un peu pessimistes.
Faut dire que la prolifération de la publicité extérieure ne rend pas optimiste.
Oui, alors écoutez, il est bien évident que ce n'est pas parfaitement satisfaisant. La France est un jardin, je le dis, je le proclame, et chacun doit en avoir conscience, vous avez raison de faire ce que vous faites.
National 7, il faut l'apprendre qu'on a bien grand à 7, que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est une route qui fait gossette.
On va se mettre sur le côté quand même parce que voilà, il n'y a qu'à quelques voitures.
Alors évidemment, dans cette politique routière, on tient compte des corridors biologiques, on fait des aménagements pour la faune, pour faire des passages inférieurs, supérieurs pour la faune.
Ouais.
On s'occupe des déchets en bordure de route. Et c'est incroyable. Si vous voyez le paquet de déchets qu'on ramasse en bordure de route aujourd'hui, c'est ahurissant. Alors, il y a des déchets, si vous voulez, qui sont inhérents à la circulation. C'est-à-dire, c'est des morceaux de bagnole qui sont éjectés, c'est un truc qui sort d'un camion sans qu'on l'ait voulu, etc.
Vous avez remarqué qu'on peut faire une collection d'enjoliveurs absolument incroyable. Parce que ça tient pas, ces trucs-là. Il y en a partout.
Oh non, alors non. Oh non, c'est une catastrophe. Regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Vous oubliez qu'est-ce qu'il y a? Bah maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément.
Regardez.
On est dans un champ de noyer,
voilà,
qui a été labouré autour, et voilà. Puis nous avons une très belle canette.
Alors
et...
moi, j'ai toujours mon petit aimant dans la poche. Je regarde si ça prend l'aimant. Vous voyez, ça prend pas l'aimant. Ça veut dire que c'est de l'alu.
C'est de l'alu, sinon ce sera de l'acier.
Ça veut dire que c'est parmi les métaux qui consomment le plus d'eau et d'énergie pour sa fabrication.
Ouais.
Donc ça, c'est une denrée qui va devenir extrêmement rare. Ouais. Alors qu'est-ce que je fais? Je l'écrase. Voilà, tranquille. Et je la garde pour la mettre dans ma poubelle. Et quand j'en ai 10 ou 20 kilos, je vais chez le ferrailleur et je me fais de l'argent de poche.
Ah ouais, d'accord.
Parce que dans ces bouteilles, il y a des quantités de bestioles qui rentrent, qui ne peuvent plus
en
sortir.
Plus, oui.
Hein, des limaces, des lézards, etc., des musaraignes.
Donc, chasser la canette, simplement, il faut trouver le débouché. Donc, il faut avoir le ferrailleur
n'importe
pas très loin.
Quel ferrailleur? Vous prenez les pages jaunes. Aujourd'hui, l'alu, ça devient un métal rare.
Oui.
Alors, on a des déchets de pique-nique, des couches culottes, des bouteilles avec de l'urine dedans. Tout ça, c'est un vrai problème parce qu'on se rend compte aujourd'hui que s'il y a moins de dépôts d'ordures sauvages qu'autrefois, aujourd'hui, le vrai problème, c'est les déchets qu'on trouve au bord des routes. Alors, moi, j'ai quelques idées. La première idée, c'est de faire installer par les constructeurs des poubelles dans les voitures. Parce qu'il est clair que quand on a des déchets dans une voiture, on ne sait pas quoi en faire.
Mmh.
Et on n'a pas la possibilité, enfin souvent, ou la flemme, de s'arrêter pour les mettre dans le coffre. Alors qu'est-ce qu'on fait encore? Par exemple, on construit des ponts vivants. Les ponts, c'est des endroits où il y a toute une série de faune qui vient dessous.
Oui.
Des chauves-souris, des oiseaux, des troglodytes, des rouges-queues, des hirondelles, le cincle plongeur quand c'est une rivière, etc. Et aujourd'hui, nous, on s'est rendu compte que
Bonjour.
Finalement, aménager ces ponts, quand on doit faire des travaux, quand on doit les créer et faire en sorte qu'il y ait des nichoirs qui soient conçus dedans, ça coûte rien du tout, c'est peanuts. Sur un budget de plusieurs dizaines de milliers d'euros, c'est 10 euros, 20 euros, c'est rien. Alors aujourd'hui, on a fait plusieurs fois, et maintenant c'est systématique au Conseil Général, on doit faire l'entretien d'un pont, ok, on fait attention avant de faire l'entretien qu'il n'y ait pas des bestioles qui soient dedans. Ensuite, s'il n'y a pas de bestioles et puis qu'il pourrait y en avoir, on pose un nichoir. Voilà, il y a comme ça toute une série de choses qu'on peut faire en matière de voirie. Par exemple, le macadam, on peut faire aujourd'hui des enrobés tièdes,
oui,
voire presque froids. C'est-à-dire que c'est bien mieux que les enrobés très chauds qu'on mettait autrefois. D'abord, ça consomme moins d'énergie, donc moins de gaz à effet de serre. C'est moins dangereux pour le personnel. Ben voilà, un truc très simple. On peut faire des signalétiques sur les voiries, les bandes blanches, etc., à base de produits qui sont sains.
Coquilles d'huîtres.
Voilà.
On va recycler les coquilles d'huîtres.
Voilà. Donc, il y a comme ça toute une série de choses. Alors, ce qui est passionnant, c'est que le service des routes au niveau du Conseil Général, au début, nous ont regardé un peu, oui, d'une manière un peu, comment dire...
Comment arriver à convaincre ces gens-là, quoi. Voilà, c'était ça.
Non, mais ils étaient intéressés, mais ils étaient un peu dubitatifs. Et puis, quand on regarde les bonnes expériences qu'on arrive à faire ensemble, et qu'il y a un retour d'image de marque, de qualité, ils sont contents de le faire.
Parce que ça valorise tout le monde.
Et les types qui, autrefois, mettaient des pesticides en bordure de voirie, qui sont eux-mêmes menacés par ces produits, c'est-à-dire on connaît les problèmes de stérilité, oui, d'allergie, de cancer liés à ces produits.
Ils sont fiers eux-mêmes de dire on n'en met plus.
Non seulement ils sont fiers, mais ils sont contents de travailler dans des conditions meilleures pour leur santé. Et souvent ils sont chasseurs ou pêcheurs, et donc de ce fait-là, ils ont bien compris l'intérêt. Voilà. Par exemple, on peut déconstruire les voiries qui ne servent à rien. Alors ça, c'est ce qu'on va faire dans la vallée de la Romanche. On est en train de faire une déviation. Et du coup, on va faire un tracé beaucoup plus court et on a toute une série de voiries qui vont devenir inutiles. Eh bien, on va les déconstruire et on va recycler le macadam, le gravier, etc., etc.
Donc à la place, il y aura quoi ? Il y aura un chemin, il y aura un
sens... il y aura de la nature.
De la nature, d'accord.
De la nature.
Merci Jean-François, à bientôt.
Au revoir Denis. Et bonne route.
Oui. La route, ça a été à vélo le retour. Mais donc, ne pas polluer, ne pas donc asphalter en ronde, c'est possible. Et alors, moi, je vous renvoie donc à un petit guide qui s'appelle Concilier route et environnement, donc qui a été créé par le Conseil général de l'Isère, avec mais vraiment plein de choses, mais qui sont tout à fait passionnantes. Et si vous souhaitez l'avoir, bah, vous écrivez à jf.noblet, N-O-B-L-E-T, jf.noblet, @cg, comme Conseil général, cg38.fr. Et donc, Jean-François Noblet vous ouvrira avec beaucoup de plaisir la plaquette. J'espère qu'il a quand même pas mal de timbres, mais c'est très très bien fait. Conseiller route et environnement. Et dans quelques instants, eh bien, troisième volet de CO2 Mon Amour avec l'actualité. Avec qui ? Nathalie Fontrelle. Here comes the sun, I say, it's all right. termes photovoltaïques. On va peut-être en parler avec vous, Nathalie Fontrelle. Et pour vous accueillir, ah, le jingle Made in France comme Aurel qui tue.
Les oiseaux. Dans la oui, charmille.
Oui, voilà, c'est joli, mais là, l'actualité de l'actualité de l'environnement, mais il faut l'abattre.
Bah oui, oui, on va essayer, on va essayer. Bonjour Nathalie Fontrelle. Donc,
bonjour Denis et bonne fête.
Ah oui, c'est vrai.
Bonne fête à tous les deux.
Oh, bah, tous, oui. Marée Rouge, alors en Hongrie, bah, on en a parlé, ça c'est la triste actualité, et vous en avez beaucoup parlé aussi dans les éditions de France Inter, Nathalie. On va mettre le cap au vert. Alors cette année, c'est l'année internationale de la biodiversité, avec dans deux semaines, le sommet de l'ONU à Nagoya.
Ouais, c'est au Japon.
Et alors, ça vous... Non, qu'est-ce qu'il y a ?
Bah, ça vous fait pas tout drôle, vous, que les mangeurs de baleines, les dévoreurs de thon rouge accueillent un plaidoyer sur la défense de la vie animale et végétale.
Ah oui, d'accord. Ouais.
Ça vous donne pas envie d'éclater de rire, quand même ? Alors que les Japonais torpillent chaque année les travaux de la Commission baleinière internationale, ceux de la CITES, l'organisation affiliée à l'ONU qui est en charge de la protection des espèces en danger, et aussi ceux de l'ICAT, en charge de fixer les quotas de la pêche au thon rouge.
La barque
en fait,
est pleine.
Voilà, tout ça, c'est à peu près aussi indigeste qu'un sushi d'espèces menacées, mais bon.
Alors, on reviendra, Nathalie, sur ce sommet de l'ONU, mais la biodiversité, c'est aussi en France, avec la publication du baromètre de la nature.
Et ça va pas bien. Le thermomètre est toujours dans le rouge, Denis, avec une tendance réellement préoccupante. C'est la disparition des terres sous le bitume et le béton. François Letourneux est le président pour la France de l'UICN.
L'Union internationale pour la conservation de la nature.
Il est comme tous les baromètres de santé, il y a des points à surveiller et puis il y a des alertes. Et puis il y a aussi des choses qui s'améliorent. On peut dire que les tendances lourdes qui sont inquiétantes, c'est l'accélération de l'artificialisation des sols, la consommation d'espace vue du point de vue des agriculteurs, c'est-à-dire que c'est la consommation par des équipements urbains. C'est un département tous les 7 ans. C'était dans les décennies précédentes un département tous les 10 ans. Donc le rythme s'accélère.
Et puis, levez le nez, Denis. Mmh. Ouvrez bien les yeux parce que les piafs, eh bien, on en voit de moins en moins dans les espaces agricoles.
Alain Bougrain-Dubourg, le président de la Ligue pour la protection des oiseaux.
Le premier constat, c'est qu'on vérifie que l'oiseau est un indicateur. C'est-à-dire qu'à travers son état de santé, l'état des populations, on a une vision, une lisibilité de l'ensemble du vivant. Alors on voit par exemple, et ça se confirme, que les terres agricoles affectent énormément d'oiseaux, singulièrement dans les populations où il y a à peu près un quart des oiseaux qui existaient il y a 20 ans inféodés aux terres agricoles qui ont disparu aujourd'hui. Et ça, c'est alarmant. Les oiseaux qui sont les plus ouverts pour survivre, qui ne sont pas spécialisés, se portent finalement assez mieux. On va dire que les opportuns ont plus de chances que ceux qui sont enfermés dans une dépendance, notamment les insectivores. Et on voit que bah, dès que les insectes disparaissent, eh bien, des espèces sont affectées de la même manière. Concernant les rapaces, on voit que les actions qui sont conduites peuvent porter leurs fruits. Par exemple, le faucon cresserellette se comptait en quelques dizaines d'individus il y a une quinzaine d'années. Aujourd'hui, on atteint et on dépasse même les centaines d'individus. C'est tout simplement parce que dans le sud de la France, on a mis des nichoirs, on a fait des surveillances, on a sensibilisé l'opinion publique. Et c'est assez rassurant parce que ça prouve que de s'investir permet de faire gagner la nature.
Alors vous retrouverez aussi ce baromètre de la nature dans le numéro d'octobre de Terre Sauvage qui vous emmène d'ailleurs dans un safari en plein Paris parce qu'évidemment les oiseaux ils sont le mieux protégés dans les villes.
Oui, oui.
Et oui, c'est comme ça. Dans quelques semaines, Nathalie, le CNRS ouvrira une exposition sur la biodiversité au Trocadéro, donc à Paris.
Oui, du 20 au 31 octobre, vous pourrez voyager au cœur d'une souche de bois mort et comprendre à quel point les forêts trop propres sont pauvres, à quel point le bois attire la diversité biologique, combien les insectes du sol sont nécessaires à la vie et à nos assiettes. Et calculer aussi les bénéfices économiques que la nature nous rapporte. Ces services soi-disant gratuits. Explication avec Franck Courchamp, il est directeur de recherche au CNRS.
Il y a des évaluations qui ont été faites. Il y a des grandes catégories de types de valeurs de la biodiversité. Il y a ce que la biodiversité nous apporte concrètement, l'alimentation, les matériaux, les médicaments. Il y a ce qu'on appelle les services des écosystèmes, la purification de l'eau, la pollinisation, la biodégradation, etc. Ça, c'est des choses qu'on commence à réussir à évaluer, même si c'est difficile. Et puis à côté de ça, il y a toute la partie de valeur un peu intrinsèque de la biodiversité, pas pour ce qu'elle nous apporte, mais pour ce qu'elle représente en elle-même. Et là, comment est-ce qu'on peut évaluer la valeur de la vie? Est-ce qu'une espèce vaut plus ou moins qu'une autre? Combien vaut le Kilimandjaro ou combien vaut une abeille? C'est des choses qu'on ne sait pas encore évaluer. Alors, on a réussi à faire une évaluation qui vaut ce qu'elle vaut de l'ensemble de ce qu'on appelle les services écosystémiques. Et cette évaluation au niveau mondial, on pense que c'est de l'ordre de 30 000 milliards de dollars par an, c'est-à-dire à peu près deux fois plus que le PNB mondial. La biodiversité, ça permet la préservation des sols, la fertilisation des sols, la pollinisation, l'apport d'oxygène dans l'atmosphère, la purification de l'eau, la biodégradation, etc.
Alors en attendant cette exposition, on peut toujours regarder les feuilles tomber.
C'est l'opération Étonnant Automne, lancée mi-septembre et jusqu'à fin novembre par Nature Paris.
Qui est le réseau de surveillance de la biodiversité en Île-de-France.
Alors rendez-vous sur natureparif.fr. En fait, les scientifiques vous demandent un petit coup de main. Ils ne sont pas assez nombreux, évidemment, pour mener à bien ces observations. Repérez la date des premières chutes de feuilles.
Ah, moi, je sais, ça y est, ça a commencé. Hein,
oui, mais... oui, d'accord, vous êtes observateur, mais oui. Denis. Mais à quel rythme tombe-t-elle? En fait, ce qu'ils veulent, c'est mesurer l'impact de la hausse de la température sur la vie, puisqu'en ville, on sait que le thermomètre est de 2 à 4 degrés supérieur à la campagne.
Alors, en fait, ce sont les murs et le bitume qui piègent la chaleur.
Oui, et fatalement, l'arbre des villes doit réagir différemment que l'arbre des champs.
Alors, ça marche de demander aux citoyens de se transformer en apprentis scientifiques ?
Eh bien, plutôt, oui. En fait, ils aiment compter les papillons, les grenouilles, les escargots.
Alors, pourquoi ça marche ?
Eh bien, j'ai posé la question à Stéphanie Lux, la directrice de Nature Paris.
Ce succès, parce que peut-être les gens ont envie de s'intéresser, parce que dans les sciences participatives, il y a deux aspects. Il y a un premier aspect qui est en fait ce qu'on nous demande de faire, c'est-à-dire observer les arbres, observer les papillons dans les jardins. Mais en échange, on apprend plein de choses. C'est-à-dire on apprend comment vit un papillon, on apprend à regarder les arbres, on apprend pourquoi les feuilles tombent, on apprend pourquoi elles jaunissent, quels sont les cycles de la nature. Donc je pense qu'en fait, dans les sciences participatives, si elles réussissent, c'est parce que c'est quelque chose qui est gagnant-gagnant.
Et en quoi les scientifiques sont gagnants dans cette histoire-là ?
Alors, les scientifiques sont gagnants dans cette histoire-là parce qu'ils recueillent énormément de données. Un des gros problèmes dans les sciences naturelles, enfin, les sciences de la vie, la biodiversité, c'est le recueil des données. Si on compare avec les sciences médicales, on se rend compte que les sciences médicales, elles reposent sur des cohortes, des personnes en fait saines ou malades, qui acceptent d'expliquer ce qu'elles vivent. Ça permet donc, avec ce recueil de données, de savoir un petit peu comment va la population. En matière de sciences naturelles, on ne peut pas faire ça, puisque les animaux, les papillons, les arbres ne peuvent pas nous raconter comment ils vont. Et c'est pour ça qu'on a besoin des citoyens qui viennent en fait transmettre l'information et expliquer, écouter, regarder tomber les feuilles. C'est dire comment évolue l'état de l'arbre, sain ou malade.
Alors, natureparif.fr.
Sous le soleil, exactement, juste en dessous.
Oui, mais on va être un peu moins langoureux parce que pour le photovoltaïque, Nathalie, on ne peut pas dire que la météo soit très calme. Donc météo agitée avec la baisse du crédit d'impôt sur l'achat des panneaux solaires.
Moins 50%.
Boum.
Alors évidemment...
C'est les soldes.
Évidemment, les industriels hurlent, vous nous assassinez. On ne peut pas gérer une entreprise si les règles du jeu changent sans cesse. Nous avons besoin de stabilité. Mais le ministre en charge du dossier, Jean-Louis Borloo, les renvoie dans leur but. Il refuse de pleurer avec les pleureuses.
Il y a 3 ans, on était zéro en photovoltaïque. On a mis en place des tarifs de rachat et quelques aides fiscales très puissantes. On était à 600% de croissance, on est maintenant à 800%. Donc on ajuste en permanence les tarifs de rachat et les aides parce que les produits, le coût de production baisse. On a 9 années d'avance sur un programme de 12 ans. C'est la plus grosse croissance française et aujourd'hui, avec ce qui est décidé, ça reste le dispositif le plus incitatif d'Europe. Des secteurs à 600-800% de croissance, ça contribue quand même largement à créer des emplois. Est-ce qu'on peut juste bien comprendre qu'on respecte les Français ? Quand un produit, le coût de production baisse, vous adaptez l'aide. Voilà, c'est normal. C'est par nature une fiscalité vivante. Elle est là pour aider des secteurs à se développer ou à faire des mutations. Ça n'a pas de vocation éternelle.
Alors, pas éternelle, d'accord, mais là, peut-être qu'elle meurt un peu vite, la fiscalité écologique, on va dire ça.
Peut-être.
Hein, d'accord. Ah.
Ah.
Ah, ah. Oh oui, c'est formidable. Alors, cacophonie, donc toujours Nathalie, avec les propos de Bruno Le Maire, le ministre de l'Agriculture.
Oui, un peu comme un écho à ceux de Nicolas Sarkozy au Salon de l'Agriculture.
Écoutez, je viens de dire, Nathalie Fontrelle et Denis Chessou, que l'environnement, ça commence à bien faire. Et votre émission, va falloir qu'on en parle. Hein.
Monsieur le Président. Cette fois-ci, le ministre de l'Agriculture réclame une pause en matière de règles environnementales. En ligne de mire, évidemment, les objectifs du Grenelle de l'environnement et la baisse de l'usage des pesticides. Oui. Alors, c'est un peu bizarre tout de même, parce qu'en même temps, le même ministre a promis de déverrouiller les aides à l'agriculture biologique. 6 millions d'euros supplémentaires aux agriculteurs qui se convertissent au bio. 3 000 producteurs s'y sont mis depuis le début de cette année. C'est tout de même 30% de plus que sur la période de, la même période pardon, oui. en 2009.
Et les ventes de produits bio continuent de progresser.
En un an, les achats ont grimpé de 19%. Bon, alors ça ne représente encore que 1,9% du marché alimentaire en termes de chiffre d'affaires. Oui. Mais c'est vrai que le bio est quand même en forme.
Alors vous, bon, vous connaissez l'argument. Si on achète des produits qui sont fabriqués à l'autre bout du monde, on ne voit pas très bien en quoi ils sont biologiques.
C'est la remarque effectivement que j'ai faite à Elisabeth Mercier. C'est la directrice de l'agence bio.
Alors, suivant les familles de produits, il y a importation ou pas. Rappelons que dans certains secteurs, il n'y a quasiment pas d'achat à l'extérieur. Dans le secteur du vin, issu de raisins biologiques, dont la production d'ailleurs augmente beaucoup, hein, nous allons avoir un doublement à horizon 2012. C'est une situation identique dans le secteur de la viande bovine et de la viande ovine. C'est également le cas dans le secteur des volailles et des œufs. Dans d'autres secteurs, pour lesquels la France a une vocation naturelle à produire des atouts particuliers, le secteur laitier et le secteur des céréales, les achats à l'extérieur vont commencer à diminuer au cours des prochains mois de l'année 2011, puis encore plus en 2012, de telle sorte qu'avec le développement de la production, puisse satisfaire les demandes croissantes des consommateurs avec des produits le plus possible de proximité. Et donc, nous aurons une augmentation très significative de la production, notamment de pommes, de poires, des variétés très nombreuses, avec des réductions du temps de transport, des réductions de consommation d'énergie, des réductions de consommation d'eau, parce que tout cela est un engagement à tous les stades des filières.
Et enfin, Nathalie Fontrelle, des nouvelles de la loi OGM ? On en est où là ?
Je crois qu'elle roupille.
Ah d'accord.
Vous vous souvenez qu'elle a été votée au printemps 2008 et qu'elle est censée garantir la liberté de consommer et de produire avec ou sans OGM.
Mais encore ?
Bah rien. Parce que plus de la moitié des décrets d'application sont encore à l'état de brouillon. D'après le bilan dressé mercredi dernier par le député UMP Antoine Hert et le PS Germinal Perrault.
Bon, qu'est-ce qu'on fait demain, le 9 octobre et demain le 10 ?
10, 10, 10. Ça ne vous dit rien, 10, 10 ?
Ah bah si, il va y avoir du Yann Arthus-Bertrand dans l'air, non ?
Ah, il y a du Yann Arthus-Bertrand puisque c'est lui qui a relayé cette opération mondiale. 10, 10, ça veut dire réduire de 10% ses émissions de gaz à effet de serre en 2010. Et demain, dans 180 pays du monde, des manifestations sont organisées pour dire on va y arriver, on va y arriver. Et à Paris, par exemple, eh bien, rendez-vous vers 15h sur la place de l'Hôtel de Ville. À cette occasion, d'ailleurs, les Vélib seront gratuits pour un grand concert pour célébrer le climat.
Merci à vous, Nathalie. On vous retrouve très bientôt dans CO2 My Love.
À bientôt.
Moi, je me levais tôt. Avec la lumière, aller pisser, dehors, contre un arbre. Putain, pisser contre un arbre et l'embrasser.
On croyait savoir tout sur l'amour depuis toujours. Nos corps par cœur et nos cœurs au chaud dans le velours. Et puis te voilà. Femme comme soufflée d'une sarbacane, le ciel a même un autre éclat depuis toi. Les hommes poursuivent ce temps qui court depuis toujours. Voilà que t'arrives et que tout s'éclaire sur mon parcours. Pendu à mon cou. Le ciel s'est ouvert par endroits.
découvert, redécouvert avec Bernard Clavel, l'homme des arbres et des forêts. Et là, c'était bien sûr l'homme des cailloux. Et c'est toujours très agréable, un petit coup de Cabrel sur France Inter.
L'agenda de CO2, mon amour.
Et oui, donc cet agenda avec d'abord peut-être un petit coup de cœur pour l'éco-truc festival qui a lieu ce week-end. Et justement, ça nous fait la liaison avec Clavel parce que c'est dans le Haut-Jura. C'est à Prénovel. C'est aussi organisé à la fois par la Jeune Chambre économique et le Parc naturel régional du Haut-Jura. Et donc, on est vraiment dans l'éco-citoyenneté, le développement durable, mais qui n'est pas .com, dans la biodiversité. Et donc, ça a lieu ce week-end. Pas si loin que ça, pas si loin que ça. En Meurthe-et-Moselle, au château de Harouet, vous avez le Forum de la Terre, donc qui se passe en Lorraine. Et puis, nous avons alors la semaine européenne des requins, Kézako, parce qu'on a l'impression que la semaine du requin, en jetant un œil sur l'actualité financière, en fait, c'est tous les jours hein, et que la bête se porte bien. Eh bien, détrompez-vous, le requin donc est au sommet de la pyramide alimentaire. Cette bête est particulièrement menacée par la surpêche. Ce sont des bêtes qui grandissent lentement, qui arrivent tardivement à maturité et puis qui donnent naissance à peu de petits. Bon, l'homme globalement s'en fiche et en rajoute depuis qu'il se passe en boucle les dents de la mer. Donc, on va s'intéresser à cela avec vous, Nicole Osseda, coordinatrice France de Shark Alliance. Dites-nous ce qu'est le finning, c'est-à-dire que vous dites coupons court aux abus. Racontez-nous pourquoi cette semaine européenne aussi.
Alors, cette année, on se concentre vraiment sur le finning. On voudrait interdire cette pratique qui est un gaspillage honteux et cruel, qui consiste à couper les ailerons et à rejeter les carcasses à la mer. Et les ailerons, vous savez, c'est pour la soupe aux ailerons de requin.
On consomme les ailerons dans quel pays, principalement ?
Plutôt la Chine et tous les pays asiatiques. En fait, le Japon n'est pas le plus gros consommateur de ces ailerons. Mais les ailerons atteignent des sommes faramineuses. Et finalement, les pêcheurs ont tous tendance à récolter les ailerons et à rejeter le requin, qui lui-même n'est pas forcément délicieux à manger. Enfin, il y en a qui sont très bons, mais pas tous.
Donc, on tue le requin que pour les ronds, en gros.
Voilà. C'est une pratique qui existe dans le monde entier. L'Europe avait fait des efforts là-dessus, mais malheureusement a donné des permis spéciaux. Et ces permis permettent de continuer cette pratique. Il y a encore deux pays qui le font, l'Espagne et le Portugal. Et donc, ce qu'on veut obtenir, nous, lors de cette semaine, c'est que les députés européens signent tous une déclaration écrite qui demande à la Commission de stopper cette pratique totalement, c'est-à-dire de changer la réglementation qui est trop laxiste et faire qu'on puisse maintenant débarquer les requins toujours entiers au port.
Voilà, c'est bien noté. Une autre petite information, la dernière. La charte d'engagement pour la biodiversité a lieu aussi cette semaine. C'est en Poitou-Charentes, qui a pour objectif d'engager tout habitant de Poitou-Charentes à faire quelque chose à son niveau. Donc là aussi, on ne baisse pas les bras. Merci à tous. Merci à Éric Morin, Michel Bézikian, qui était aujourd'hui à la technique, à Marion Lelay, à Jean-Christophe Pinaza et Caroline Lebossé, qui réalisait l'émission. Des sites très intéressants grâce à notre cyberdocumentaliste Anne Gouzon. Et puis aussi son site l'environnement donc en temps direct. La semaine prochaine, eh bien, je recevrai Pierre Radal. Mais en fait, il va être questionné par des jeunes de 18-23 ans. Donc, ils vont lui poser ses questions sur l'énergie, sur le climat. Et c'est bien d'avoir la couleur aussi, cette parole tout à fait tonique de jeunes qui se posent des questions sur leur siècle. Mama, vous connaissez ? On y va.